Donc, la deuxième session, voilà, on va s'intéresser donc plutôt aux politiques publiques et aux dispositifs qui ont vocation à accompagner les jeunes ou leurs parents sur ces différents sujets. Donc avec Barbara Bignon d'abord, conseillère technique des politiques jeunesse à la CAF des Alpes-Maritimes, qui a lancé la mise en œuvre du dispositif des promeneurs du net sur le département. Hein, donc elle va nous parler de ce dispositif. Et ensuite, nous entendrons Gilles Frigoli, maître de conférence en sociologie, qui a lui aussi accompagné la mise en œuvre des promeneurs du net dans les, mais en tant que sociologue observateur, et qui a réalisé une recherche soutenue par la CAF sur s'intitule À qui s'adressent les promeneurs du net, logique d'appropriation de la rue numérique. Voilà, Barbara, je te laisse la parole.
Merci Marion, donc bonjour à tous. Donc Marion m'a présenté. Donc déjà, je voudrais savoir s'il y a des promeneurs du net qui sont connectés aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient présents. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat et à nous montrer que vous êtes présents. C'est important qu'on puisse aussi vous identifier. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire « je suis là ». Ça permet d'avoir un peu d'interaction. Donc, comme vous l'a dit Marion, je vais vous parler du dispositif Promeneurs du Net, qui notamment s'est déployé dans les Alpes-Maritimes donc j'ai assisté au lancement. Juste, je vais vous rappeler le contexte rapidement de la démarche Promeneurs du Net. Donc, la démarche Promeneurs du Net, c'est vraiment une démarche qui fait écho à une initiative qui a été déployée en Suède il y a une quinzaine d'années et qui ensuite arrive en France en 2012. Qui a été déployée pour la première fois par la CAF de la Manche et ensuite par la CAF du Cher et après par la CAF du Morbihan. Donc, on était dans le nord de la France. Et puis, donc, fort de cette expérience et des constats qui sont également revenus très positifs, il y a eu une généralisation de ce dispositif promeneur du net à l'échelon national, donc en 2017, et qui a été fortement impulsé par la CNAF lors d'une journée nationale qui s'est déroulée en septembre 2016. Donc cette démarche, là depuis donc, le démarrage, on parle de jeunesse en ligne et donc maintenant on parle, de, comme a dit Marion, de cette démarche promeneur du net. Cette démarche, elle se fonde sur un constat. Les professionnels de la jeunesse qui accompagnent les jeunes au quotidien sont présents dans les écoles, dans la rue, dans les structures jeunesse. Et aujourd'hui, pour nous, il paraît inconcevable que ces professionnels de la jeunesse ne soient pas dans la rue numérique. La rue numérique qui est Internet, est vaste, et où notamment sont présents les jeunes sur les réseaux sociaux. Vraiment donc une présence très importante. Donc pour un peu, pour que ça puisse être assez concret, j'ai pu récupérer des chiffres de différentes sources. Donc déjà, on note que 87% des 11-12 ans sont équipés d'un smartphone, donc ce qui veut dire qu'ils peuvent télécharger des applications et avoir accès à des réseaux sociaux. 59% des moins de 13 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Là, ce sont des sources qui proviennent de l'IFOP. Donc on constate vraiment qu'il y a un réel besoin d'accompagner ces jeunes dans la rue numérique. Ils sont présents dans cette rue numérique de façon très jeune, parce que 11-12 ans, c'est quand même assez jeune, dans la préadolescence. Encore hier, j'ai eu connaissance d'une situation qui s'est déroulée dans un collège privé, dans une classe de 5e. Voilà, tous les élèves de la classe de 5e sont regroupés sur un groupe Snapchat. Et il y a eu en fait une situation de cyberharcèlement sur le groupe envers des jeunes de la classe. Et là, le proviseur du collège était un peu, comment dire, désemparé. Il faisait appel aux parents en disant « Attention, il faut pouvoir être présent auprès de vos enfants sur le temps qu'ils passent sur Internet, sur les réseaux sociaux. » Donc, encore une fois, hein, je pense que promeneur du net, cette présence éducative sur Internet apparaît aujourd'hui comme incontournable. Donc, on parlait des réseaux sociaux et ce qu'on a pu aussi récupérer à travers différentes enquêtes qui sont à l'échelle nationale au niveau des réseaux sociaux sur la tranche d'âge 11-18 ans, Le premier réseau social qui arrive en tête, c'est YouTube, Snapchat et en dernier Instagram. Et pour les 18-25 ans, nous avons en premier Instagram, deuxième Snapchat et en troisième Facebook. Donc on note bien qu'au cours de ces dernières années, Facebook a vraiment perdu sa place de leader. Les jeunes sont vraiment présents sur d'autres réseaux sociaux, hein, donc ça, on en a vraiment conscience. Et aujourd'hui, on amène les professionnels de la jeunesse vers ces réseaux sociaux, et notamment le réseau social qu'on privilégie aujourd'hui, c'est Instagram. On essaie d'être présent sur ces réseaux sociaux et également un réseau social dont vous avez sûrement tous entendu parler, qui est en train de l'ampleur, c'est également donc TikTok. Hein, vous avez peut-être dû pouvoir voir ces vidéos en ligne avec de la musique. Voilà, c'est vraiment des sites qui montent et TikTok s'est imposé comme la deuxième application la plus téléchargée en 2019 dans le monde. Et c'est une application qui est très populaire auprès des 16-18 ans. Voilà, c'était vraiment un petit aparté sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, hein, les jeunes peuvent se connecter via leur smartphone, mais aussi via les tablettes, hein, parce que aussi maintenant, les jeunes sont de plus en plus équipés de tablettes également. Donc j'imagine que ça doit vous faire écho, soit dans vos pratiques professionnelles, dans votre côté vie personnelle. Peut-être vous avez déjà entendu des jeunes dire de faire des flammes sur Snapchat, de faire une vidéo sur TikTok. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences via le chat, parce que je pense que chacun peut témoigner. On va revenir donc au dispositif Promeneurs du Net, mais je pense que c'était intéressant quand même de savoir où sont présents les jeunes dans la rue numérique. Donc actuellement, la démarche Promeneurs du Net, donc, elle est portée à l'échelon national, elle est portée par plus de 92 CAF. Et il y a environ 1500 professionnels qui sont identifiés comme promeneurs du net à l'échelon national et qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, on voit bien qu'il y a un réel engouement pour cette démarche. La CNAF réaffirme également son soutien dans la convention d'objectifs et de gestion qu'elle a signée avec l'État sur la période 2018-2022. Comme je le disais tout à l'heure, la présence éducative sur Internet apparaît vraiment aujourd'hui comme un élément incontournable des politiques préventives, éducatives et sociales auprès des jeunes. Cette présence éducative, elle prend également tout son sens dans cette période de confinement et de couvre-feu successif durant l'année 2020-2021. Il y a beaucoup de structures jeunesse qui ont été fermées et donc le lien qui a pu être maintenu avec ces jeunes, il a pu également être maintenu notamment via les réseaux sociaux et via l'activité des promeneurs du net. Comme je vous l'ai dit également en introduction, la CAF des Alpes-Maritimes s'est engagée dans cette démarche depuis septembre 2017. C'était une action phare de notre schéma départemental des services aux familles qui était signé sur la période 2016-2020. Donc, les promeneurs du net qui sont présents, parce que j'ai pu voir dans le fil de discussion qu'il y avait des promeneurs du net qui étaient présents. Donc, vraiment, je vous remercie. Votre mobilisation aujourd'hui, parce qu'on parle de vous et qu'il faut qu'on puisse vous identifier. Alors, les promeneurs du net, qui sont-ils ? Ce sont des professionnels de la jeunesse qui s'adressent aux jeunes âgés de 12 à 25 ans. Et donc, ils interviennent dans le cadre habituel de leur mission. Ils sont mandatés par leur employeur et donc, ils peuvent travailler donc, soit dans un centre social, soit dans un bureau d'information jeunesse, soit dans un foyer de jeunes travailleurs, une maison des adolescents, un accueil de jeunes, un accueil de loisirs, une mission locale, un espace public numérique. Ils établissent une relation de confiance avec les jeunes et deviennent amis avec ces jeunes via les réseaux sociaux. En fonction du réseau social, il y a plusieurs différents types de process pour devenir amis. Le promeneur du net est clairement référencé, c'est-à-dire que normalement, il y a sa photo, son prénom et le nom de sa structure. Le jeune sait à qui il s'adresse. Ça, c'est un principe fondateur de ce dispositif. Il se met en contact avec le jeune pour répondre à ses préoccupations. Et dans un second temps, il peut également impulser des projets avec les jeunes via les outils numériques. De pouvoir répondre à tout type d'informations. Et après, bien entendu, s'il y a un réel problème, le promeneur du net va demander aux jeunes de venir le rencontrer en présentiel. Parce qu'il faut savoir que quand même, les promeneurs du net, en général, deviennent amis avec des jeunes qui fréquentent déjà la structure. Et après, on peut aussi, en effet, boule de neige, avoir de nouveaux amis via les amis qu'on a déjà. Donc, promeneur du net, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas un nouveau métier, pas du tout. C'est une nouvelle manière de prolonger ses missions éducatives auprès des jeunes, qui sont juste les modalités de relations qui changent. Vous dire, dans le département des Alpes-Maritimes, lorsque nous avons démarré, nous avions 9 promeneurs du net. Aujourd'hui, le réseau s'est largement étoffé. Nous avons bientôt 20 promeneurs du net qui sont actifs, donc aux différents, à travers des centres sociaux, des collectivités, des bureaux information jeunesse, des associations locales. Vous avez une page départementale, un site internet départemental des promeneurs du net qui vous permet de pouvoir retrouver la liste des promeneurs du net. Donc vous pouvez déjà aller consulter cette page. Les promeneurs du net des Alpes-Maritimes, aujourd'hui, c'est un réseau donc, qui s'agrandit au fil des années, se professionnalise grâce à une coordination qu'on a externalisée, hein, qui aujourd'hui est confiée à l'association l'antenne départementale Les Petits Débrouillards depuis fin 2019, qui permet vraiment de mettre en place des formations et des réunions de réseau régulières pour accompagner ces professionnels. La coordinatrice des promeneurs du net du département interviendra à la table ronde. Donc, j'en profite également pour la remercier du travail qu'elle mène au quotidien et également les promeneurs du net, hein, qui travaillent tous les jours auprès des jeunes. Que vous dire également, c'est que la démarche promeneur du net, c'est un outil d'intervention proposé par la CAF au service des politiques jeunesse. C'est un réel atout pour les structures jeunesse pour venir professionnaliser des pratiques pouvait déjà être mise en place, mais qui n'était pas labellisé promeneur du net. Vraiment, c'est un réel atout. Et sachez que la CAF œuvre au quotidien pour la politique jeunesse à travers d'autres dispositifs qui sont nombreux et qui sont développés au cours de ces dernières années, au travers de la prestation de services jeunes, au travers des appels à projets jeunes qu'on propose également, au travers le soutien au foyer des jeunes travailleurs. Dernièrement, avec la reprise du pilotage des points d'accueil pour jeunes, nous avons vraiment un réel panel d'outils à votre disposition. Et un dernier point pour finir et pour passer la parole à Gilles Frigoli, nous avons eu la chance, lorsque nous avons déployé le dispositif promeneur du net, d'avoir noué au même moment une convention de partenariat avec l'URMIS qui a permis d'avoir un chercheur qui soit avec nous depuis le démarrage de cette expérience qui est promeneur du net. Et donc, il a pu suivre depuis le démarrage et jusqu'à maintenant encore le déploiement de cette démarche. Et donc, il a également écrit un rapport de recherche qu'il va vous présenter très, très rapidement. Et ça a vraiment été une plus-value pour nous. Il a permis d'ouvrir les débats et aussi pour nous de prendre du recul sur la mise en œuvre. Donc, il me permet de faire la transition. Et je vais laisser la parole à Gilles Frigoli, maître de conférence en sociologie à l'URMIS, qui va vous présenter son rapport de recherche qui s'adresse les promeneurs du net. Merci.
Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Ah, ben je suis ravi. Oui, alors ça c'est normal, j'ai pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis content que vous m'entendiez parce que, pour tout vous dire, ça fait 1h30 qu'on stresse avec Marion parce que mon micro ne marchait pas, et là, enfin, c'est réparé, donc je suis content, voilà, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, je suis, moi aussi, comme les intervenants qui m'ont précédé, je suis ravi de participer à cet événement. À titre personnel, j'ai toujours pensé que tout ce qui permettait, tout ce qui favorisait la rencontre entre le monde de la recherche et le monde des politiques sociales et familiales allait dans le bon sens. Et donc, j'en vois l'illustration à travers cet événement. Alors, je remercie Barbara Bignon, hein, pour ce qu'elle vient de dire, et réciproquement, je lui dirais que j'ai été très bien accueilli avec beaucoup de bienveillance, hein, par la CAF des Alpes-Maritimes et par le réseau promeneur du net. Je dis ça un peu par expérience parce que bon, j'ai mené un certain nombre de travaux d'études au cours de ma carrière, et c'est pas toujours le cas, hein. Et là, je veux dire que vraiment, j'ai bénéficié de conditions de travail qui sont tout à fait optimales. Donc, merci et merci encore une fois à Barbara et à la CAF des Alpes-Maritimes plus généralement. Donc, je vais aller assez vite, hein, pour présenter mon travail. Disons que, pour le dire vite, la recherche que j'ai menée s'inscrit dans le prolongement d'une certaine manière du travail qu'ont présenté mes collègues, hein, Catherine et Alessandro. Simplement, je prendrai les choses un peu sous un angle différent, dans la mesure où mon propos n'est pas d'étudier les pratiques numériques des jeunes, hein, proprement dites, mais d'étudier la manière dont les pouvoirs publics s'en saisissent pour concevoir et mettre en œuvre à partir de là des politiques publiques. À l'image, hein, du dispositif Promeneur du Net, hein, qui constitue bien un dispositif qui, entre autres choses, hein, vise à faire face, hein, à certains risques, à certains dangers auxquels les jeunes sont exposés aujourd'hui, dangers parmi lesquels on compte, hein, ceux qu'ont évoqués Catherine et Alessandro. Donc, mon objectif de départ, disons, pour cette recherche n'avait rien de très original, hein, à vrai dire, puisqu'il s'agissait simplement d'essayer de mieux comprendre comment un dispositif comme les promeneurs du net se construit, tout simplement, hein. C'est-à-dire comment se définissent ses objectifs, comment se définissent les moyens à mobiliser, comment s'organise très concrètement le déploiement d'un dispositif de ce type. Alors pourquoi poser ce type de question, hein, qui peut sembler très général, un peu banal même, hein, pourquoi poser ce type de question? Eh bien, pour une raison simple, qui est que le dispositif promeneur du net affronte pour une part des problèmes, des problématiques qui sont nouvelles, en tout cas qui peuvent sembler être nouvelles. En tout cas, elles le sont sans doute dans leur matérialité, puisque les réseaux sociaux et leurs usages sont d'apparition récente. Et puis, ces problématiques sont sans doute nouvelles aussi en tant qu'objet de débat public et en tant qu'objet d'action publique, hein, puisque certains des problèmes, hein, qu'on associe généralement au numérique sont des problèmes dont on parlait, dont on ne parlait pas, hein, ou peu, ou moins, ou en tout cas différemment, il y a encore quelques décennies, voire encore quelques années, hein. Et donc, pour ces raisons, il me semblait intéressant d'étudier la manière dont les institutions, en l'occurrence la CAF, hein, mais d'autres aussi, la manière dont les institutions et les professionnels font avec des problématiques à l'égard duquel, justement, on a peu de recul, hein. Et pourquoi ça me semblait intéressant? Parce que, précisément, comme ce sont des problématiques sur lesquelles on a peu de recul, eh bien, elles sont susceptibles de déstabiliser ou de mettre à l'épreuve, en tout cas, les manières de faire et les manières de voir habituelles chez les institutions et chez les professionnels. Et donc, c'est dans ce sens, c'est pour cette raison que j'ai accompagné, en effet, comme l'a dit Barbara, le dispositif promeneur du net depuis sa création, hein, en essayant encore une fois de comprendre comment une institution comme la CAF et ses partenaires, hein, et puis des professionnels de la jeunesse faisaient avec des thématiques, des problématiques qui sont encore une fois relativement nouvelles, hein. On parlait de la cyberhaine, on parlait de la radicalisation sur Internet, etc. Je reviendrai là-dessus. Alors, de ce point de vue, l'enquête que j'ai menée montre un certain nombre de choses. Bon, je vais aller très vite là, hein, puisque je vois que le temps avance et je ne vais pas non plus vous faire un résumé de l'ensemble du travail que j'ai mené, mais disons que l'enquête montre en particulier ou met en évidence, disons, un phénomène qui est relativement connu, hein, par les sociologues de l'action publique, hein, et qui consiste pour les institutions et les professionnels à essayer de trouver le bon équilibre, hein, ou le juste équilibre entre assimilation et accommodation. Assimilation, c'est le processus à travers lequel les acteurs finalement recyclent, entre guillemets, les manières de faire habituelles, hein. L'accommodation renvoyant au processus inverse d'une certaine manière, hein, au sens où, par accommodation, on s'adapte à la nouveauté, quitte à revoir, à modifier les prismes organisationnels, cognitifs, normatifs avec lesquels on travaille habituellement, hein. Et en l'occurrence, eh bien, lorsqu'on étudie le dispositif promeneur du net à l'échelle d'un département, on voit en effet des acteurs, hein, qui naviguent entre assimilation et accommodation. C'est-à-dire en gros, hein, entre adaptation au changement et puis utilisation, mobilisation des ressources qu'on a l'habitude de mobiliser et d'utiliser, hein. Alors en l'occurrence, ça donne quoi? Eh bien, du côté de l'assimilation, c'est-à-dire du côté des réflexes institutionnels, entre guillemets, et professionnels à l'œuvre, on trouve des choses que les gens qui connaissent le monde de l'action sociale locale n'étonneront pas. Je pense par exemple à la territorialisation, hein, qui est une recette, hein, et ça n'est pas un mot péjoratif, hein, le mot recette, la territorialisation comme recette, hein, qui est depuis quelques décennies, hein, une sorte de mot-clé ou de mot d'ordre, hein, dans la mise en œuvre de beaucoup de politiques sociales. Donc la territorialisation, c'est-à-dire l'idée de laisser au CAF, au département, une marge de manœuvre assez importante, hein, pour s'adapter à leur territoire, pour adapter en gros le dispositif aux enjeux strictement locaux. On pourrait évoquer aussi la promotion du partenariat comme mode d'action, c'est-à-dire l'idée qu'on valorise, hein, le fait que les acteurs se parlent, se concertent, se coordonnent, etc. On pourrait parler aussi du recours au monde associatif, qui est là aussi une sorte de réflexe institutionnel, hein, assez ancré aujourd'hui. Donc on s'en remet, on valorise le fait de travailler avec le monde associatif, et c'est le cas, hein, dans le cas des Premières du Net. Beaucoup de Premières du Net sont des acteurs associatifs. Et puis on pourrait aussi évoquer la question de l'évaluation. Hein. Le dispositif Premières du Net est un dispositif qui est évalué, hein, et là aussi ça rentre, disons, dans un ensemble de manières de procéder qui sont aujourd'hui assez ancrées dans la vie institutionnelle, y compris locale. Hein. Donc ça, c'est pour le versant, encore une fois, assimilation, hein, c'est-à-dire on utilise les manières de faire que l'on maîtrise et que l'on connaît pour les adapter à une nouvelle réalité qui est la rue numérique, Internet et les risques associés. Et puis du côté donc, de l'accommodation, hein, c'est-à-dire les choses qui nous obligent en gros à revoir nos grilles d'analyse et nos prismes, on observe un certain nombre de choses là aussi, hein, comme par exemple la question des horaires de travail, hein, qui est une question très concrète, hein, mais qui se pose, hein, c'est-à-dire... Comment on régule, hein, la présence des professionnels, hein, dans la rue numérique, dans la mesure où cette rue numérique, par définition, elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc, la question se pose de savoir si les promeneurs du net ont un droit à la déconnexion, hein, comment ils gèrent ça, hein. On pourrait parler aussi d'une question comme celle de la confidentialité des données, hein, et celle de leur traçabilité, puisque là aussi, Internet apporte peut-être... cette dimension un peu supplémentaire pour les professionnels, qui est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, hein, tout ce qu'on dépose sur Internet laisse des traces, hein, pour très très longtemps. Donc voilà, ça oblige là aussi les institutions, hein, peut-être à repenser, hein, la régulation, disons, des pratiques professionnelles. D'autant que cette question de la traçabilité, hein, des données et de leur confidentialité interroge directement aussi la responsabilité des professionnels. Et ça fait partie des questions que les professionnels, les institutions affrontent, hein, dans la rue numérique. Hein. Je pense aussi, et c'est sur ce point que je voudrais insister, hein, je pense aussi à la question des compétences des promeneurs du net et à la question de leur expertise. Hein. Et c'est sur ce point que je voudrais insister dans cette présentation, parce que là aussi, avec la question de la compétence professionnelle donc des promeneurs du net, on est à la fois en terrain connu, on est en terrain connu, parce que, a priori, les professionnels de la jeunesse savent faire avec les jeunes. C'est leur métier, donc ils savent accompagner les jeunes dans leurs projets, comme face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais en même temps, on est aussi sur un terrain un peu moins balisé, précisément pour les raisons que j'ai dites, hein, parce que la rue numérique est d'apparition récente. Hein. Donc la question se pose de savoir comment, concrètement, on définit les compétences des promeneurs du net, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un bon promeneur, hein. Alors j'ai envie de dire une bonne promeneuse, mais je ne sais pas si la féminisation du terme est rentrée dans les mœurs, et si, voilà. Donc je dirais promeneur, hein, mais évidemment je pense aux hommes et aux femmes qui exercent cette mission. Hein. Voilà, finalement un promeneur du net, c'est quelqu'un qui est censé être bon en quelque chose, mais en quoi, hein. Qu'est-ce qu'il est censé bien savoir faire? Alors, là aussi, hein, évidemment, les institutions répondent à la question que je suis en train de poser. Et donc, les institutions savent faire avec ce type de difficultés, hein, c'est-à-dire comment on construit une compétence. Hein. Les institutions, et notamment la CAF, hein, sait faire ce genre de choses. Et en l'occurrence, dans les Alpes-Maritimes, comme dans l'ensemble des départements, les CAF, eh bien, se sont lancés dans une vaste opération de construction de la compétence de promeneurs du net. En utilisant, là encore, eh bien, les outils qu'elles savent mobiliser. Donc concrètement, on dira qu'un bon promeneur du net, c'est quelqu'un qui remplit bien la mission qui lui est donnée. Et en l'occurrence, donc, un bon promeneur du net, c'est quelqu'un qui sait développer les pratiques de nature à accompagner correctement les jeunes, encore une fois, dans leurs projets et face aux difficultés auxquelles ils s'exposent. Et pour, disons, faire vivre cette définition de ce qu'est un bon promeneur du net, eh bien, les institutions, et la CAF en premier lieu, mobilisent un certain nombre de critères qui sont les critères classiques que l'on retrouve dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Donc, en l'occurrence, la qualification. Hein, on choisit, on sélectionne les promeneurs sur leur qualification, sur leur expérience aussi, bien sûr, sur leur motivation, sur la confiance que l'on a dans la structure qui emploie le promeneur, etc. etc. Et puis, pour sécuriser la démarche, eh bien, on contractualise les rapports entre les différents acteurs. On assure un suivi de l'activité et on forme les promeneurs. Hein. Trois choses que la CAF, en l'occurrence, fait dans, dans sa manière d'animer le dispositif. Donc, d'une certaine manière, ces différentes procédures répondent à la question, hein, qu'est-ce qu'un bon promeneur, hein. Elles répondent, mais elles répondent un peu imparfaitement quand même. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on entre dans le détail, eh bien, lorsqu'on entre dans le détail de l'expertise attendue des promeneurs, les choses sont tout de même, il faut bien le constater, un petit peu moins claires. Et j'ai envie de dire nécessairement moins clair, hein. Donc ça n'est pas une critique, hein, oui, encore moins un reproche évidemment, hein. Ce ne serait pas légitime pour le faire, mais disons que je dirais simplement que c'est une construction qui est en train de se réaliser, hein. Et donc fatalement, hein, lorsqu'on regarde les choses de près, eh bien on se rend compte qu'on a affaire à des problèmes qui sont nouveaux, donc la compétence nécessaire pour faire face à ces problèmes nouveaux, eh bien, elle-même, elle est en train de se construire. Donc il est, à mon avis, normal, hein, prévisible, que tout n'aille pas de soi, je dirais, de ce point de vue-là. Et pour au moins deux raisons. La première est liée à la gamme très étendue des problèmes, précisément, que les promeneurs du net sont censés être capables de repérer et si possible, de contenir. Hein. Je parle de ces fameux problèmes que l'on rencontre dans la rue numérique. Alors, j'en ai noté quelques-uns, hein, mais enfin, on se rend compte assez vite qu'on a une gamme assez large, dont les contours sont assez flous d'ailleurs. Hein. Donc, le cyberharcèlement, la cyberhaine, le sexisme, le conspirationnisme, le racisme, le discours, les dérives sectaires, la pornographie, les fake news, le populisme, la radicalisation, etc. etc. Or, bien, chacune de ces thématiques est un domaine d'expertise en soi. Et il suffit d'écouter d'ailleurs ou de lire les travaux de Catherine Blaya et d'Alessandro Bergamaschi pour se rendre compte qu'on ne s'improvise pas, par exemple, spécialiste de la cyberhaine. Mais on pourrait dire la même chose pour le conspirationnisme, pour le racisme, etc., etc. Donc, première raison, on attend des promeneurs du net qui soient, qu'ils aient une gamme de compétences extrêmement étendue, hein, ce qui évidemment, ne va pas de soi. Bon. La deuxième raison, hein, qui fait que cette compétence, elle est en construction et elle mérite d'être interrogée, et la deuxième raison est liée peut-être à la charge morale et politique, et peut-être on pourrait dire aussi idéologique, hein, charge morale, politique, idéologique, dont sont lestées certaines de ces thématiques dans le débat public aujourd'hui, et qui fait que les professionnels, les promeneurs, sont parfois amenés à devoir trancher des questions que précisément ni le débat public, ni le droit, ni même les scientifiques ne tranchent. Soit parce que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, et je crois que l'expérience du Covid nous a montré que c'est un cas qui n'est pas totalement à exclure, hein, il peut se faire que les scientifiques soient publiquement en désaccord, soit parce que la question n'est pas politiquement tranchée, au sens où le législateur n'en fait pas une question scientifique, mais une question politique. Alors, lorsque je dis ça, je ne parle pas des cas les plus extrêmes qui mettront tout le monde d'accord, mais je parle en fait d'une sorte de zone grise où les comportements d'un jeune ne sont pas assez caractérisés pour tomber sous le coup de la loi ou d'une réprobation morale qui irait de soi, hein, et pas assez anodins pour éviter aux éducateurs, hein, au sens large, de s'en préoccuper. En affrontant d'une certaine manière cette zone un peu grise, les professionnels finalement se trouvent en situation de devoir trancher parfois des questions pour lesquelles ils ne savent pas s'ils sont dans la technique, la science, le préjugé, le stéréotype, l'idéologie, etc. Alors pour illustrer cette idée, je prendrai un cas que je connais un peu comme sociologue, qui est celui du conspirationnisme. Le conspirationnisme, évidemment, est un thème aujourd'hui qui donne lieu à beaucoup de travaux, la recherche avance sur ces questions, etc. C'est indéniable. Mais pour autant, moi, il me semble, hein, et pour connaître ces travaux, il me semble que serait bien malin aujourd'hui celui qui serait capable de dire ou de situer le point précis où commence le conspirationnisme et surtout le point précis à partir duquel il faut considérer que l'affaire est grave. Et concrètement, hein, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Et de toute façon, c'est un objet de controverse politique très fort aujourd'hui dans le débat public. Très concrètement, et pour être tout à fait, pour être peut-être même trivial, hein, si parmi vous, parmi le public, il y a des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, je me garderai bien de les ranger sans autre forme de procès du côté des complotistes, par exemple. Même chose si quelqu'un me dit, parmi vous, qu'il trouve que décidément, les géants du numérique essayent quand même d'orienter nos pratiques de consommation. Donc, on se retrouve finalement avec une sorte de zone un peu floue. Or, précisément, c'est cette zone-là que l'on demande aux professionnels et aux promeneurs de savoir mobiliser, de savoir manier, de savoir clarifier d'une certaine manière ce qui ne va pas de soi. Hein. Alors là aussi, hein, les institutions, bien sûr, anticipent ce genre de difficultés, et la CAF, en l'occurrence, le fait, hein, et la CAF apporte des réponses. Barbara Bignon vient de le rappeler, hein, promeneur du net n'est pas un métier en soi. Donc théoriquement, on n'est pas censé précisément aller sur une zone de compétence qui n'est pas la sienne. De la même manière, les promeneurs du net sont formés, leurs pratiques sont régulées, on favorise les échanges entre différents professionnels, on leur conseille d'orienter vers un spécialiste, précisément, quand on a le sentiment qu'on est confronté à une difficulté dont on n'est pas l'expert. Hein. Mais quand bien même, hein, il me semble que dire cela, et tout cela est vrai, hein, ça ne résout pas complètement le problème, au sens où, pour moi, ça le déplace. Hein. Alors, vous allez me dire qu'en vous disant tout ça, finalement, je réinvente un peu l'eau tiède, hein, puisque tout ce que je dis là, en fait, ne fait finalement que dire ce qui constitue peut-être le socle du travail social, hein. C'est-à-dire l'ambivalence entre aide et contrôle social, l'ambiguïté, hein, entre le désir de se nourrir de la recherche scientifique et la crainte d'être dépossédé de sa propre compétence, l'ambiguïté entre, ou l'ambivalence, c'est-à-dire entre le désir de dépolitiser les questions au risque de la dérive techniciste et le désir de les surpolitiser, mais au risque de déprofessionnaliser les secteurs. Toutes ces choses-là sont inhérentes à l'histoire du travail social. Des milliers de pages ont été écrites là-dessus et je n'ai aucune prétention à apporter une contribution originale à ce titre. Mais pour autant, et c'est sur ce point que je voudrais conclure, précisément, il me semble qu'on peut prendre le dispositif promeneur du net de ce point de vue-là, au sens où il me semble que ce dispositif offre une très belle opportunité et un très bel outil pour reposer certaines questions qu'on a peut-être un peu vite jetées par-dessus bord au cours des dernières années ou au cours des dernières décennies, qui sont des questions anciennes, hein, héritées parfois même des années 70, hein, donc c'est pour vous dire, hein, mais qui me semblent pour autant des questions qui sont vraiment d'actualité. Et qu'un dispositif comme le dispositif promeneur du net nous invite à reposer d'une certaine manière. La première de ces questions, c'est celle de la dimension politique du travail social, au sens large. Alors non pas, hein, au sens politicien du terme, hein, gauche-droite, etc., ou non pas au sens où il faudrait se demander si les professionnels, les promeneurs doivent être ou non des militants, encore que, pourquoi pas, hein, c'est pas une question anecdotique, hein, mais c'est peut-être plus simplement, dans un autre sens, hein, que je pose cette question, en remarquant que les problèmes auxquels les travailleurs sociaux, au sens large, et notamment les promeneurs, hein, se confrontent, sont pour une part des problèmes que l'on peut traiter sur un versant strictement technique. Et c'est incontestable, avec l'appui des sciences sociales, hein, d'ailleurs, hein, des travaux de recherche, etc. Mais pour une part, je pense que ces problèmes sont des problèmes qui sont, pour une part en tout cas, hein, j'insiste là-dessus, de manière irréductible, politique. Et en l'occurrence, hein, je me contenterai de rappeler, hein, qu'à travers un dispositif comme celui-là, les promeneurs du net, finalement, ce sur quoi il s'agit de statuer, c'est le fait de savoir ce qu'est une jeunesse qui va bien, ce qu'est une jeunesse qui ne va pas bien, ce qu'est une jeunesse qu'on doit protéger parce qu'elle souffre, ce qu'est une jeunesse dont on doit se protéger parce qu'elle nous fait peur. Bref, statuer sur ce qu'est une jeunesse souhaitable. Or, il me semble que c'est une question éminemment politique hein, que de décider quelle est la jeunesse, ce qu'est la jeunesse qu'on souhaite, hein, qu'on souhaite pour l'avenir. Et je pense que contester cette idée a priori, c'est-à-dire contester le fait que c'est une question politique, c'est d'une part exposer les professionnels à de grandes difficultés, parce qu'on les met en position de devoir régler par de l'ingénierie sociale des questions qui sont politiques. Et c'est pour tout le monde, d'une certaine manière, prendre le risque du retour, du refoulé politique dans les pratiques quotidiennes de travail. Par exemple, sous la forme de la discrimination. Parce qu'il faut bien que ces cases vides, les professionnels les remplissent. Et le risque est qu'ils les remplissent avec des préjugés, des stéréotypes ou des tentatives sous la contrainte hein, de bricolage, de signification, de critères, de valeurs, etc., qui sont précisément hors contrôle. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, qui me semble pouvoir être remise à l'ordre du jour, peut-être qui est une vieille idée, c'est celle de la fonctionnalité du travail social, au sens large. Hein. C'est-à-dire, voilà, finalement, le travail social est-il vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de promeneurs du net? Et c'est une question, je pense, qu'il faudrait poser de manière plus claire. Hein. Et je m'empresse de dire que ma réponse, si je peux me permettre d'être un peu normatif, ma réponse est que oui, et plus que jamais, on a besoin de promeneurs du net. Parce que je pense que plus que jamais, on a besoin d'espace, de médiation entre ce qui circule dans le débat public et l'environnement immédiat des jeunes. Précisément parce que c'est de parfois et de plus en plus, malheureusement, sous une forme assez hystérique, hein, que l'on parle des questions liées au danger numérique aujourd'hui dans le débat public. Et on a besoin d'espace où une médiation soit possible. Ça veut dire quoi concrètement une médiation? Ça veut dire des espaces où la réciprocité de perspectives soit possible, ce qu'on n'observe plus aujourd'hui dans le débat public. Donc la réciprocité de perspectives, des espaces dans lesquels on puisse admettre la nuance, le fait qu'il n'existe pas toujours de vérité définitive, y compris lorsqu'on va, on va la chercher du côté de la science, des espaces où on admette qu'il existe parfois des approches différentes et même antagonistes du monde social, et que pour autant, il faut à partir de là essayer de fabriquer du commun. Alors c'est vrai que cela oblige les professionnels et les promeneurs du net à une très très grande réflexivité, ne serait-ce que pour vivre sereinement hein, le fait d'un côté d'être obligé à une très grande modestie face à l'ampleur de la tâche, et le fait que l'enjeu est d'une ambition tout à fait démesurée par ailleurs. Simplement, et c'est là-dessus que je conclurai hein, tout de suite, il se trouve que, et je dis ça vraiment sans souci d'être complaisant, hein, ça n'est pas mon genre, ni vis-à-vis de la CAF, ni vis-à-vis des promeneurs, mais je conclurai en disant que de ce point de vue-là, j'ai été très impressionné par ce que j'ai observé hein, au sein du réseau promeneur du net dans les Alpes-Maritimes. Très impressionné par la manière dont j'ai vu le réseau relever précisément ce défi, qui est un défi de taille. Hein. C'est-à-dire que je n'ai vu des promeneurs ni céder à l'arbitraire, ni à l'indécision ou à la paralysie. Je n'ai pas vu des promeneurs qui cédaient à une sorte de scientisme ou au contraire se créaient des certitudes sans les connecter aux résultats de la recherche scientifique. En fait, j'ai vu des acteurs qui essayait simplement de faire vivre avec discernement le projet de rendre le monde social vivable. Et j'insisterai sur ce mot de discernement, qui pour moi est vraiment le mot-clé aujourd'hui, et qui passe par ce qu'ont évoqué aussi bien Alessandro et Catherine que Barbara Bignon, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse réfléchir collectivement, parce que cela nourrit notre discernement et je suis moi-même étonné de m'entendre insister à ce point sur le discernement. C'est peut-être pas bon signe d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il manque tellement à notre débat public aujourd'hui sur certains sujets qu'on se surprend à être interloqué précisément lorsqu'on le voit à l'œuvre. Et je l'ai vu à l'œuvre sur le terrain, dans ce réseau, aussi bien du côté des promeneurs que de ceux qui animent le réseau, c'est-à-dire Barbara Bignon dans un premier temps et aujourd'hui Soledad de Tolosa, en organisant des formations de la réflexion, etc. C'est-à-dire en renonçant à des certitudes toutes faites pour accepter la complexité et l'accepter collectivement. Hein, c'est ça qui me semble tout à fait remarquable. Voilà, je pourrais continuer à parler, mais je vois que le temps avance, donc je m'arrêterai là. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci Gilles, merci Barbara pour ce regard croisé sur les promeneurs du net et qui se conclut plutôt de manière positive. Je te laisse la parole, Barbara, pour nous présenter. Alors, un petit. Excusez-moi. Nous avions prévu, en fait.
Juste peut-être, est-ce que avant de passer rapidement à l'interlude, est-ce qu'il y avait des questions? On n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, s'il y a une question, voilà, il y a eu des petites interactions hein, durant nos interventions. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est maintenant ou plus tard.
Oui, il y a eu quand même des commentaires dans le fil de conversation.
Oui, il y a eu des interventions, notamment sur d'autres réseaux sociaux. Hein, il y en a qui ont parlé de Discord, et effectivement, hein, qui est un réseau social qui est plus lié au jeu. Après, l'objectif, notamment des promeneurs du net, c'est pas d'aller sur tous les réseaux sociaux où sont présents les jeunes, ou aussi leur laisser leur jardin secret, entre guillemets. Donc, voilà, déjà, les promeneurs du net sont quand même présents sur Instagram, Snapchat, ce qui est déjà bien. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux que je n'ai pas cités au cours de mon intervention. Et également, il y avait une réflexion aussi de la part, je crois, de Catherine Blaya sur le fait que dans les milieux défavorisés, les jeunes n'avaient pas forcément de smartphone, mais qui se connectaient via les tablettes qui nous sont... notamment, maintenant, il y a beaucoup de collèges, enfin, c'est le département qui fournit des tablettes aussi. En général, elles sont quand même bloquées hein, pour pas qu'ils puissent... aller télécharger d'autres applications. Ils ont accès à YouTube notamment, où ils peuvent regarder des vidéos. Voilà, donc il y avait cet aspect-là qui est ressorti au cours de la conversation.
Il y a aussi Pierrette Casalère-Jouvent, voilà, qui représente la fondation Denis PSP Act, voilà, qui évoque d'autres études qui ont été réalisées par la DRAP. Voilà, avec lesquels qui pourrait être intéressant de mentionner. Du coup, je peux répondre en partie à cette remarque, puisqu'en fait, à la fin du PowerPoint de cette matinée, on va proposer un petit catalogue de références, de ressources. Donc, on pourrait à ce moment-là, si vous voulez, mentionner les autres études qui ont pu être faites dans le département sur la question des jeunes et du numérique, pour ensuite le partager. Peut-être y a-t-il des questions encore, des remarques? Voilà, sachant qu'à la fin de la matinée, on va revenir sur une discussion plus générale.